Cinéma, cinéma, Jacques Viguier, bonjour. Aujourd'hui, David Cronenberg. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. David Cronenberg. Pourquoi David Cronenberg? En fait, il a présenté un film au Festival de Cannes et ça m'a donné l'idée d'évoquer ce cinéaste très original et très particulier. Alors, il n'a pas eu de prix pour son film, présenté donc à Cannes cette fois-ci. Et il faut reconnaître que le film n'est pas extraordinaire. Ce n'est pas un de ses meilleurs films. Mais donc, je m'en suis servi quand même comme prétexte pour parler de ce cinéaste original qui a fait... une vingtaine de films depuis les années 70. Alors ces films, il y en a qui sont plus réussis que d'autres. On peut dire que parmi les plus connus, il y a Chromosome 3, Dead Zone, La Mouche, Faux-semblant par exemple, History of Violence aussi. Donc ces films ont des particularités, notamment dans une sorte de mélange entre le physique et l'organique. Je m'expliquerai un petit peu ensuite là-dessus. Donc, originalité, on peut catégoriser, si on veut vraiment catégoriser un réalisateur, David Cronenberg comme faisant des films fantastiques. Ce n'est pas les science-fiction, même si c'est à la limite de la science-fiction parfois. Ces films sont consacrés à une approche de l'être humain, mais à la fois avec une approche organique et une approche mécanique. On voit, par exemple, l'humain qui se transforme en machine ou l'inverse. Donc, on assiste souvent à l'évolution du corps humain vers un aspect monstrueux, vers une déchéance, vers une dégénérescence. Il y a aussi le mélange être humain-machine dans la mesure où l'être humain va être relié à une machine pour continuer à exister. Donc, tout cela est parfois difficile à définir. Mais quand on voit les films de Cronenberg, on perçoit immédiatement de quoi il s'agit. Certains considèrent ces films comme malsains, comme choquants. D'autres, au contraire, sont admiratifs devant ces films. Alors, nous allons examiner un petit peu sa carrière et quelques films en particulier. Je vais d'abord utiliser la musique de Dead Zone, qui est un de ses films les plus connus.
Thank you.
David Cronenberg est un réalisateur et scénariste canadien. Alors je précise bien scénariste, puisque un réalisateur qui ne tourne pas sur son propre scénario n'a pas toujours la maîtrise sur le film lui-même dans sa globalité. Mais s'il fait le scénario, au contraire, là, il veut maîtriser l'ensemble et son film peut être plus personnel. Donc il commence à faire des études de sciences, mais il constate qu'il préfère le milieu artistique. Il va réaliser deux courts-métrages dans la seconde moitié des années 60, et puis il va passer au long métrage en 1969. Donc, je reviendrai sur ses premiers films, Stéréo, et le second s'appelle Crime of the Future, c'est-à-dire le même titre que le film qui est sorti à Cannes ces jours-ci, mais qui n'a rien à voir avec celui-là. Donc déjà, dans ces films, on a les thèmes classiques, ou qui deviendront classiques. Le corps humain, qui est expérimenté, la médecine, la contamination, la sexualité, donc tout cela est présent. On le retrouve encore dans Rage et Chromosome 3, qui sont ces films des années 70, et un véritable succès va apparaître dans les années 80. C'est là qu'il y aura en particulier Dead Zone avec Christopher Walken, La Mouche avec Jeff Goldblum. Et Faux-semblant avec Jeremy Irons. Donc ces films vont vraiment le poser comme un grand réalisateur, comme un réalisateur original. Et il aura parfois quelques films qui seront présentés, réalisés, qui ne seront pas fantastiques, qui ne comprendront pas d'éléments de science-fiction fantastiques, mais ça reste minoritaire dans son œuvre. C'est le cas par exemple de History of Violence, qui est vraiment un film très fort, où le caractère malsain existe toujours, mais sans qu'il y ait de dimension fantastique. Donc, le ton du réalisateur étant donné, on va examiner quelques-uns de ses films et voir comment sa thématique se développe. Alors, un mot sur ces deux premiers films, non pas qu'ils soient extrêmement importants par rapport à des œuvres futures comme La Mouche, mais parce qu'il y a déjà la thématique de Cronenberg. Donc dans Stéréo, il s'agit de différents jeunes qui vont essayer de se préparer à des expériences sous l'autorité d'un parapsychologue. Donc la dimension fantastique, la dimension un petit peu choquante apparaît déjà avec ces expériences qui sont menées. Dans Crime of the Future, dans le premier, qui sort en 1970, là, il s'agit d'une maladie qui viendrait de produits pour la beauté féminine. Donc, on assiste à une transformation des femmes qui les ont utilisées. Et là encore, donc, la dimension fantastique est présente. Alors, un film aussi en 1977 qui s'appelle Rage, où on voit une jeune femme qui a été blessée, qui est opérée. Mais elle va servir de cobaye pour les médecins qui s'occupent d'elle. Et on va opérer des greffes pour réparer ce qui a été endommagé à la suite de l'accident. Et tout d'un coup, sa situation va changer. Alors, on peut relever un élément ici intéressant parce qu'on le retrouve d'autres fois chez Cronenberg. À un moment donné, quand elle ne peut plus manger, elle va découvrir qu'elle a un orifice sous son aisselle et elle va utiliser une sorte de tuyau pour s'alimenter. Donc là, c'est exactement ce que j'évoquais comme thématique de Cronenberg, la machine qui va servir au maintien de la vie de l'homme ou l'homme qui va utiliser la machine. Donc cette situation va se retrouver dans d'autres films. Mais elle est vraiment, on peut dire, typique de ce que Cronenberg peut faire. Alors, le film qui a connu peut-être le plus de succès parmi les films que j'ai cités, c'est Chromosome 3 qui va sortir juste avant 1980. Et dans ce film, là encore, toujours pareil, les manifestations physiques, les troubles mentaux, et là, il y a un lien utilisé par un psychiatre entre les troubles mentaux et des manifestations physiques. Il va essayer en quelque sorte de faire ressortir les troubles mentaux à travers des manifestations physiques. Donc, des mutants, des morts, etc. C'est toujours, quand je vous disais, la thématique de Cronenberg est vraiment réelle, on l'a véritablement ici. Alors, j'ai parlé de la mouche, et le film, donc, est célèbre. Écoutons quelques notes de musique et je reviendrai sur le film.
Vous êtes bien sûr Esprit Occitanie, la web radio, et tout de suite, cinéma cinéma.
Avant La Mouche, un mot sur un film qui a eu aussi un succès, c'est Dead Zone, qui est présenté en 1983. Alors là, la situation est un petit peu différente de ce qui se passe habituellement, c'est pas un mélange d'organique et de mécanique, c'est un homme... Alors, un homme, je précise, joué par Christopher Walken. Christopher Walken, qui est un grand acteur, révélé notamment par Voyage au bout de l'enfer, et qui a fait de très nombreux films. Donc, cet homme a un accident de voiture, et il va développer un don. Quel est ce don ? S'il touche la main d'un individu, il va découvrir son avenir. Alors, quel est... la difficulté pour lui, est-ce qu'il le révèle, est-ce qu'il ne le révèle pas, est-ce qu'il peut agir sur l'avenir tel qu'il l'a vu? Donc, question difficile à résoudre. Alors là, l'appellation, si je puis dire, l'expression zone morte, dead zone, fait référence à une partie du cerveau de Christopher Walken qui a été endommagée. Et cela entraîne donc ces différents troubles et... cette zone morte lui sert à déterminer quel sera l'avenir des personnes. Alors, le sujet va dériver vers la fin, vers une question politique, c'est-à-dire que Christopher Walken va voir un individu, un homme politique, qui va se livrer à des pratiques qui peuvent entraîner une guerre, et il ne sait pas quoi faire. Alors, finalement... il terminera en se sacrifiant et en lui prenant la main et en essayant donc de lui le rendre dans l'impossibilité de faire ce qu'il aurait souhaité. Donc, modification de l'avenir, c'est toute la logique de ces films dans lesquels, je ne peux pas dire que c'est un genre à part, mais dans lesquels on vient prévoir l'avenir. Est-ce qu'on peut prévoir, mais est-ce qu'on peut modifier l'avenir ? C'est cette question qui se pose dans ce film. Alors, la mouche dont on vient d'écouter la musique, c'est le film qui a eu le plus grand succès, peut-être sur la carrière de Cronenberg. Donc, qu'est-ce qui se passe dans La Mouche ? On a un scientifique qui est joué par Jeff Goldblum, là aussi qui a pas mal de filles à son actif à cette époque-là. Et il essaie de trouver une invention permettant de transporter d'un lieu à une autre, en fait d'une cabine à une autre dans la même pièce, un être vivant et, ou un objet. Alors le héros essaie de faire en fait des expériences pour arriver à maîtriser la situation et pouvoir considérer que le transporteur va marcher. Alors, il constate que le transport, entre guillemets, n'est pas au point pour les êtres vivants, et il va le constater avec un singe qui va se retrouver mutilé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de ce personnage ? Il va essayer de transporter un nouvel animal, et là, il va réussir. Alors, que fait le héros, donc Jeff Goldblum ? Il va finalement, ça arrive souvent pour des savants un petit peu fous, se prendre lui-même comme expérience. C'est-à-dire qu'il va se mettre dans une cabine et se téléporter dans une autre cabine. Alors le problème, c'est que quand il fait cette téléportation, alors c'est pas Star Trek, mais enfin c'est la téléportation, il va, sans le visualiser, laisser entrer une mouche dans la cabine où il se trouve. Et donc, forcément, il va y avoir un mélange des gènes et sans que Goldblum s'en rende compte, il va modifier son comportement. Alors, il va, par exemple, avoir envie de sucre. Bon, ben, c'est l'animal qui parle en lui. Et puis, il va subir une transformation physique. Donc, cette transformation physique le rend très violent et très fort à la fois. Et il ne sait pas comment s'en sortir, comment le maîtriser. Et la transformation continue. Il constate donc que deux formes de vie se sont mêlées et qu'il y a eu une fusion entre la mouche et lui, on pourrait dire au niveau moléculaire, au niveau des molécules donc, qui se sont mélangées. Donc, film qui est assez sombre, mais qui a quand même une originalité profonde, et les spectateurs qui l'ont vu sont sortis en général satisfaits. Donc voilà un film qui est important, mais il y a aussi un autre film très important après, dont je vais vous parler, qui s'appelle Faux-semblant. Mais là, j'ai sélectionné une musique d'un film qui n'est pas un film fantastique, mais un film entre guillemets normal, History of Violence. Temblant, c'est peut-être mon film préféré de Cronenberg. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de deux médecins qui en fait sont jumeaux, et des vrais jumeaux. Ils sont gynécologues et ils partagent tout. Alors quand je dis qu'ils partagent tout, ils se succèdent dans un appartement, ils se succèdent à leur travail, ils se succèdent aussi dans les conquêtes féminines. Donc le jeu est bien rodé. Il y a dans ce cabinet de gynécologues ce que Cronenberg affectionne, c'est-à-dire des instruments qui ont l'air des instruments de torture, donc c'est assez impressionnant. Et les deux jumeaux vont petit à petit se séparer parce qu'ils tombent amoureux d'une femme, mais celle-ci, il y a un des deux qui vraiment a envie de rester avec elle. Et tout cela entraîne une jalousie de l'autre jumeau, et petit à petit, on descend vers la violence. Alors ici, ce qui est particulièrement original, c'est l'acteur qui joue les deux jumeaux, c'est Jeremy Irons. Donc Jeremy Irons joue les deux jumeaux, ce ne serait pas un problème jusque-là, c'est facile avec des trucages. Mais en fait, on arrive à comprendre quand il joue le jumeau qui se fait passer pour l'autre, ce qui n'est pas évident à jouer, mais qui est d'une perfection absolue. Donc ce film Faux-semblant, c'est le thème, c'est le scénario, c'est la présence de cet acteur Jeremy Irons qui rend le film extraordinaire. Et cette descente vers la violence correspond toujours et encore au thème préféré de Cronenberg. Alors un film sur lequel je passe rapidement parce qu'on ne va pas les analyser tous en détail, c'est Crash. Ce film est original pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que deux personnes, un homme et une femme, qui ont subi un accident, vont tout d'un coup, progressivement, se voir infliger, entre guillemets, une situation dans laquelle ils ont besoin d'une excitation sexuelle à travers des collisions de voitures pour arriver à trouver un plaisir. Donc là, vous voyez que c'est toujours une originalité. Cronenberg a des scénarios originaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, Existence, qui sort en 1999. Alors là, on est en plein dans la thématique que j'évoquais, c'est-à-dire du lien entre le monde normal et le monde virtuel. Cela veut dire que les joueurs qui sont reliés à un monde virtuel, qui pratiquent un jeu, progressivement vont être connectés à travers un trou qui est percé dans le dos du joueur. Donc, là encore, c'est une situation où la transformation et la qualité du joueur va devenir liée à ce trou qui est percé dans son dos et qui va comprendre ce qu'on peut appeler une prise. Alors, film que j'ai cité tout à l'heure, Historia Violence, qui est en fait un film, entre guillemets, normal. Le héros, c'est Viggo Mortensen. Viggo Mortensen qui jouera quatre films chez Cronenberg. Donc Viggo Mortensen qui est installé dans une petite ville qui tient un restaurant et qui est connu du voisinage comme quelqu'un de bien. Et un soir, on a deux tueurs qui viennent dans le restaurant et qui semblent le connaître. Et Viggo Mortensen va les tuer avec une célérité, une habileté impressionnante. Donc, les voisins, la petite commune va se rendre compte que, en réalité, il a une vie antérieure et que cette vie antérieure correspond à la venue de ces personnes. Et plus tard, on voit arriver celui qui était son chef dans sa vie antérieure, qui est joué par Ed Harris, qui est un acteur qui lui aussi a joué pas mal de rôles et notamment de second rôle. Et donc, il va être obligé d'aller régler ses comptes et de tuer ce qui pouvait le gêner. Donc, on a ici un film, entre guillemets, normal. Et le suivant est aussi de la même nature. Il s'appelle Maps to the Star, la carte des étoiles, dans laquelle on est dans le milieu hollywoodien. On assiste à au déséquilibre d'une femme, à la manière dont il y a aussi un enfant qui devient une star de cinéma et qui perd les pédales. Donc le film sans dimension fantastique est pourtant assez étonnant. Alors, je reviens sur Les Crimes du Futur, le dernier film qu'il a tourné qui se présente depuis une semaine. Alors, je l'ai dit, ce n'est pas un des films phares de Cronenberg. Et certains ont été étonnés parce qu'ils attendaient toujours ce style de Cronenberg. Et lui-même avait prévu que des gens pouvaient quitter la salle pendant le début du film et que certaines scènes étaient dures, qu'il pouvait y avoir des crises de panique. Or, ça n'a pas été le cas. Les journalistes disent que le film, effectivement, n'est pas le choc qui a été annoncé. Et le sujet, c'est-à-dire Viggo Mortensen, toujours lui, qui est généralement couché, et chez lequel, c'est Cronenberg, encore une fois, hein, des organes poussent, et on a Léa Seydoux qui vient l'opérer et sort ses organes. Voilà. Et il faut peut-être faire enregistrer ses organes. Donc, thématique qui est toujours un peu particulière. Et je dirais dont on ne se lasse pas avec Cronenberg, même si ce film n'est pas véritablement une réussite. Alors, il y a le dernier film en salle. On parle aussi d'un prochain film. Bon, le prochain film qui serait tourné peut-être en 2023, qui verrait apparemment une possibilité pour les individus de se connecter avec les morts, leurs morts proches. Et donc, qu'est-ce qui en sortira ? Il est certain que ce film qui s'appelle The Schrutz, c'est le nom pour le moment, semble correspondre à toute cette thématique de Cronenberg. Donc voilà, j'espère que cela vous aura donné quelques informations supplémentaires sur Cronenberg et que vous serez tenté de voir ces films, en particulier La Mouche et Faux Semblant, qui sont vraiment des œuvres particulièrement réussies. Cinéma, cinéma, une émission de Jacques Viguier. Avec, à la technique, Marco Pazzoni. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission ainsi que ceux de toutes les autres sur le site de la station Esprit Occitanie ainsi que sur l'application pour smartphone. Bonne semaine à toutes et à tous.